Les routiers sont toujours aussi sympas.
Le replay.
Bonsoir à tous, 21h, c'est le début de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Je m'appelle Yoko, Sébastien Ponchelet m'a prêté les clés de son camion depuis hier. Mais je ne suis pas seule, évidemment. Je suis très bien entourée. Je vais vous présenter mes copilotes du soir. Hervé dans le sud-est, bonsoir.
Bonsoir Yoko, bonsoir Marielle, bonsoir à toutes et à tous.
Et voilà Marielle dans le sud-ouest.
Ravie de vous retrouver, bonsoir Yoko, Hervé et tous nos auditeurs et amis.
Merci, avant de vous donner le programme du soir justement, eh bien on va parler météo.
Portez-vous bien, le programme de prévention santé géré par Carcept Prévoyance qui vous accompagne au quotidien vous présente Les routiers sont toujours aussi sympas.
Merci d'écouter. Les routiers sont toujours aussi sympas. Deux sujets au programme de ce soir. La décarbonation de la livraison dans les milieux urbains grâce à des camions électriques avec un focus sur un système pensé par Renault Trucks. Et puis des camions spéciaux avec un long nez, capot avant. Est-ce que ça vous plaît? C'est d'ailleurs la question qu'on vous pose d'ailleurs dans le sondage du jour sur le site de la radio. Vous pouvez voter si vous êtes à l'arrêt, évidemment. Ce soir, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Nicolas Grumel, rédacteur en chef du magazine France Route, pour cette émission en partenariat. Et puis deux autres invités seront avec nous par téléphone. J'attends aussi bien sûr vos réactions. Vous pouvez m'écrire via le messenger de l'émission pendant votre pause ou votre coupure. Allez, un petit peu de musique avant cela. On va se retrouver, ce sera juste après Kelly Clarkson. Kelly Clarkson avec Stronger sur le 107.7. Il est 21h09 et c'est donc le début de votre émission. J'entends par là que c'est maintenant que les choses seront croustillantes puisque je suis avec Nicolas Grumel. Bonsoir, vous êtes rédacteur en chef du magazine France Route. Et puis je suis aussi accompagnée d'une autre personne que je vais vous présenter dans quelques instants parce que il y a un petit peu moins de deux mois, Renault Trucks a présenté à Paris un dispositif automatisé nommé Deliver Assist. C'est de l'anglais, embarqué dans un porteur Renault DE-Tech 26 tonnes, en partenariat avec le transporteur Jackie Perrino et Intermarché. Autrement dit, pour ceux qui ne savent pas comme moi tout ce que ce jargon veut dire, un camion électrique avec un système automatisé pour faciliter la vie des livreurs dans les centres-villes. Pour en parler donc, j'ai par téléphone le plaisir d'accueillir celui qui a pensé cette innovation. Il s'agit de Fabrice Courtins. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur de projet logistique urbaine de Renault Trucks. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer cette fonction et quel est votre périmètre d'action?
Donc, ma fonction, c'est d'inventer, de développer des solutions autour de la logistique urbaine qui vont permettre d'améliorer la vie des chauffeurs et aussi d'apporter des solutions aux entreprises de transport. Ça va du Deliver Assist auquel qu'on va décrire dans quelques minutes, en passant par des box connectées et vous l'avez peut-être entendu, mais travailler sur des vélos cargo pour la livraison de demain dans les centres périurbains.
Alors, avant de vous demander justement de préciser ce Deliver Assist, de quoi il s'agit, et puis surtout de nous raconter comment vous est venue cette idée lumineuse, Nicolas, est-ce que vous pouvez bien décrire bien rapidement ce système?
Voilà, alors donc ça prend place dans un camion électrique, hein, un porteur Renault DE-Tech 26 tonnes, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, dans la caisse qui est derrière, hein, à l'arrière du véhicule, prennent place en fait un carrousel qui va prendre les conteneurs et puis les faire tourner, donc...
Automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de main-d'œuvre.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans un camion classique, en fait, le conducteur, qui est aussi opérateur, il descend de sa cabine, il va à l'arrière, il ouvre les portes, il met en place le haillon.
Les fameux
voilà, le haillon qui va être à l'horizontale. Il monte sur le haillon, hop, il monte un peu pour être au niveau des portes. Il ouvre les portes et à l'intérieur, il va prendre tous les racks ou les conteneurs qui sont un peu en vrac, etc.
Beaucoup de manutention, donc, finalement.
Beaucoup de manutention, des risques d'accident parce qu'on peut tomber, glisser, etc. Et donc là, à la place de ce système, avec beaucoup de manutention, il y a un carrousel qui fait en fait tout le travail. C'est-à-dire que l'opérateur, il a plus qu'une liseuse de code numérique et il entre le code quand il arrive à la destination je ne sais pas, à l'Intermarché, puisque ça a été mis au point avec la chaîne Intermarché, donc on peut citer
bien
la
sûr.
Marque. Donc, il arrive dans l'Intermarché où il doit livrer un certain nombre
de marchandises.
Et donc, il rentre le code, hop, la liseuse fait marcher le carrousel, et le conteneur va arriver sur un monte-charge qui est à l'intérieur du véhicule. Mmh. Le monte-charge descend automatiquement et l'opérateur reste en fait au niveau de la chaussée, quoi.
Alors,
donc, il y a beaucoup moins de risques.
On va justement évoquer tout cela dans les prochaines minutes, les risques. Mais avant cela, Fabrice, j'ai entendu parler d'une histoire de pressing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui. En fait, j'ai fait dans ma précédente dans mon précédent travail, j'étais en charge du développement des cabines de camions et j'ai fait des vie-ma-vie, beaucoup de vie-ma-vie avec plusieurs conducteurs. Et puis surtout en centre urbain, je me suis aperçu que un des problèmes majeurs qu'ils avaient, c'était quand même en ville le chargement et le déchargement, le fait qu'on monopolise la chaussée, la dangerosité, on vient de le dire, hein, monter sur un rayon. Et je me suis dit, un jour, il faut quand même qu'on invente quelque chose, quoi. On est constructeur de camions, il faut peut-être qu'on aille au-delà de concevoir juste les camions. Et il y a un moment que ça, l'idée me tournait en tête, comment je pourrais aider les chauffeurs et nos clients. Et puis un jour, en passant devant un pressing, j'ai vu tous ces vêtements là qui circulent en automatique, en l'air. Et je me suis dit, mais la solution, elle est là, en fait. Si j'arrivais à inventer ça pour des box ou des palettes et rendre tout ça automatique...
Sans que le conducteur monte et descende du camion, finalement.
C'est exact, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rentre les box dans le camion ou des conteneurs. On leur a donné déjà la destination d'adresse. Le carrousel, vous les poussez juste dedans quand vous êtes à quai. Le carrousel, lui, lit les adresses. On arrive vers, donc tout ça est relié par GPS, on arrive vers la destination, et le carrousel, en mode automatique, organise la tournée, c'est-à-dire qu'il va vous présenter les bonnes boxes pour le bon client. Et arrivé sur place, le chauffeur, il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et descendre les conteneurs qui sont pour ce client. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est ça l'idée, et vraiment, elle est venue du pressing, parce que c'est à peu près la même chose quand vous allez au pressing. Vous allez chercher votre vêtement, vous donnez le numéro, la dame, elle tape, ça vient en au-dessus d'elle et vous avez le bon vêtement au bon endroit. Mmh. Donc c'était à peu près d'où toute cette idée est venue.
Inspirée de la vie quotidienne. Alors on va évoquer plus précisément dans les prochaines minutes comment est-ce que vous avez mis en place cette idée et puis ensuite quels sont les bénéfices. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'infotrafic.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés du camion.
Et oui, de retour sur les ondes du 107.7 en compagnie de Nicolas Grumel de France Route et de Fabrice Courtins de Renault Truck. Alors Fabrice, tout à l'heure on a évoqué donc cette innovation que vous avez pensée, mais comment est-ce qu'on met en place une solution comme celle-ci? Je rappelle, un camion électrique avec une solution automatisée pour le déchargement des livreurs en milieu urbain pour le moment en tout cas. Comment on met en place cette solution et quel a été le cahier des charges finalement au départ?
Une fois qu'on a une idée comme ça, le plus dur reste à faire, c'est de la mettre en place,
j'imagine.
De la créer. Et donc la première chose, c'est d'aller voir ses patrons et de les convaincre que c'est une bonne solution. Sur Renault Truck, j'ai la chance d'avoir des patrons qui prennent très au sérieux le besoin de nos clients. Donc j'ai pas eu beaucoup de mal à les convaincre et j'ai eu leur feu vert pour commencer des consultations parce qu'il faut construire un système pareil. Et il n'y a pas, évidemment, ça n'existe pas. Donc, fallait trouver une entreprise capable de nous aider à construire ce carrousel. Et dans nos usines de camions aujourd'hui, et même automobiles, il n'est pas rare de voir des convoyeurs aériens dans toutes nos usines, et notamment Actemium, qui est une filiale de Vinci, qui développe ça pour l'automobile et les camions. Et donc, j'ai pris contact avec les gens de chez Actemium. Et autour d'un croquis, on a commencé à faire un brainstorming pour trouver les idées et inventer ce carrousel. Et après quelques mois, on avait les prémices d'une solution. Et là, on a eu le feu vert de toutes nos directions, qui étaient vraiment moteurs pour nous aider. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Mais c'est quand même une application qui est à la fois de l'ingénierie, qui relève de l'ingénierie, mais aussi de l'économique, parce que Une innovation pareille, ça coûte quand même cher. C'est dans le cadre d'un programme que vous l'avez mis en place ou c'est...
Non, l'innovation, évidemment, elle coûte, la première coûte très cher. Mmh. Mais on a pris sur nos budgets R&D recherche et développement, que ce soit chez Actemium ou chez Renault Trucks, les deux grosses sociétés croient en l'avenir de l'automatisation pour la livraison urbaine et pensent que c'est pour l'avenir un point business majeur.
D'accord. Donc ça fait, en fait, c'est ce qui motive en fait la réalisation, la fabrication de ce système, quoi.
Oui, tout à fait.
Mmh. Alors, j'imagine...
C'est un constructeur français, hein,
oui,
faut le rappeler.
C'est vrai, la marque Losange, bravo.
Oui.
C'est vrai que c'est important hein, d'investir comme ça pour l'avenir, mais c'est pas toujours évident de convaincre en effet son employeur. Alors, grâce à cette invention, il y a deux bénéfices. On va essayer d'en parler, Nicolas, pour commencer. D'abord, comme c'est un véhicule électrique, il n'émet plus de CO2, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, et ce qui participe donc forcément à la réduction de l'empreinte environnementale du transport. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cet aspect écologique?
Alors, disons qu'il n'émet plus de CO2 une fois qu'il est en circulation, hein, c'est-à-dire donc...
oui, pas à la construction,
voilà,
c'est ça que vous voulez dire.
Pas à la construction, et après, bon...
Oui, c'est ce qu'on entend quand même sur la décarbonation en règle générale, voilà. Quand on roule, voilà, c'est à l'électrique. Voilà.
Donc c'est très avantageux pour, notamment en milieu urbain, pour toute la proximité du camion, c'est-à-dire que quand c'est un camion gasoil... Donc il y a les émissions de CO2, mais aussi les émissions de particules qui sont inexistantes. Donc ça, c'est assez important. En dehors des particules, des plaquettes de frein et de certains de ces éléments-là. Mais sinon, globalement, ça, voilà, ce sont des véhicules qu'on qualifie de propres. Si on accepte aussi le recyclage des batteries, parce que ça vient plus tard, évidemment, quand elles sont plus utilisables. Et là, ça pose des questions. Mais
il y a encore du travail de recherche et développement sur ça.
En tout cas, c'est quand même des camions qui présentent le caractère zéro émission en circulation. Donc il y a ça. Et puis il y a également le fait qu'il est silencieux. Ça, c'est très important.
Surtout en centre-ville, vous le disiez.
Voilà, c'est ça, en centre-ville. On a des véhicules qui émettent moins de nuisances. Et par exemple, je ne sais pas si vous le voyez en région parisienne, mais il y a maintenant de plus en plus de bennes à ordures ménagères qui sont électriques. Et c'est marrant parce que on n'entend plus le véhicule rouler, enfin le moteur, quoi. Et
on le sent toujours.
On entend toujours un peu évidemment le basculement des poubelles. On entend tous les outils liés à l'activité même du camion, mais par contre on n'entend plus le moteur. Et on se rend compte, tiens, c'est marrant parce qu'il fait pas de bruit ce camion. Alors qu'avant, le camion de poubelle, c'était quelque chose qui était assez, qui émettait
nuisible,
beaucoup de nuisances.
Oui, et du coup, le fait qu'il soit silencieux, c'est aussi un plus pour parce que là, on parle quand même de livraison. Vous me coupez si je me trompe, hein, Fabrice, mais pour des points qui sont donc en milieu urbain, donc des petites supérettes globalement, ce qui veut dire que ça peut permettre aussi l'acheminement des marchandises la nuit, en tout cas à des horaires décalés pour pouvoir avoir un meilleur service de proximité.
Tout à fait. C'est aussi une des innovations, c'est que aussi bien ce camion qui devient silencieux, mais le système de Delivery Assist est silencieux. C'est-à-dire par rapport à un haillon, il est bien plus silencieux. Donc on pourrait très bien imaginer un peu changer les horaires de livraison. Et du coup, tout le monde est
gagnant.
C'est un bénéfice pour tout. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que même les usagers de la route, ça évite de créer des bouchons. Ça calme un peu le sujet de la livraison, hein, pour en avoir fait. C'est quand même à nos amis chauffeurs que leur tire mon chapeau, hein, aller livrer tous les jours en centre-ville.
Ouais.
À 5h du matin, se faire déjà engueuler dès le matin parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et les gens oublient quand même qu'il faut alimenter les magasins. Ils sont bien contents de trouver des denrées dans les magasins.
Bah, c'est facile de se plaindre.
Voilà. Je veux dire, ce n'est pas un métier facile. Hein. C'est un métier très difficile. Il faut vouloir le faire. Et justement, arriver avec ce système à un peu changer les horaires de travail et apaiser un peu la ville, je pense que c'est une bonne innovation aussi pour ça, pour nous. tous.
Transportez-vous bien, le programme de prévention santé géré par Carcept Prévoyance qui vous accompagne au quotidien, vous présente « Les routiers sont toujours aussi sympas ».
Tour sur les ondes du 107.7 en compagnie de Nicolas Grumel de France Route et de Fabrice Courtins de Renault Trucks. Alors, on parle depuis une petite demi-heure d'une innovation présentée par Fabrice Courtins qui va changer la vie des livreurs en centre-ville, un camion électrique automatisé. Et je suis donc toujours avec vous, Fabrice. L'autre bienfait de cette innovation, outre le fait que ce soit un meilleur impact écologique, c'est tout simplement au niveau de l'ergonomie et de l'efficacité pour les agents qui déchargent leur livraison en centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Grâce à ce système automatisé, les livreurs n'ont plus besoin d'ouvrir ce haillon, de monter sur ce haillon à l'arrière des camions et d'aller à l'intérieur des caisses chercher les produits. Tout ceci est fait automatiquement par un ascenseur, je dirais, qui sort du camion et qui pose les conteneurs au sol. Donc on n'a plus ce risque de monter sur un rayon, de tomber d'un rayon, comme c'est le cas aujourd'hui. Je rappelle que, d'ailleurs vous en aviez déjà parlé dans une de vos émissions que j'ai écoutée, il y a beaucoup d'accidentologie chez les livreurs. Donc c'est un des problèmes majeurs qu'ont les entreprises de transport. Et ça solde ce problème. C'est-à-dire que là, on n'a plus le problème de tomber du wagon ou de se faire mal. Ça va nous solder ce problème.
Et puis sans parler d'accident totalement, même ne serait-ce qu'au niveau de la santé, j'imagine pour des problèmes de dos, c'est un meilleur impact pour les opérateurs qui n'ont plus à filmer les palettes avant le départ, à arrimer le chargement, vous l'avez dit, mais voilà, ils n'ont plus à se baisser autant qu'avant, et rien que pour ça, j'imagine qu'au niveau de la santé, c'est une amélioration également.
Exactement, on n'a plus besoin de filmer ses palettes, c'est aussi écologique. Oui. On passe des tonnes de films pour tenir ses palettes ou ses rolls. Du coup, là, on a un roll grillagé, fermé, on met les denrées dedans, c'est protégé, on n'a plus aussi, on ne les abîme plus pendant le déchargement et le chargement.
Moins de
gaspillage. Donc oui, on solde pas mal de sujets comme cela.
Et vous l'avez dit, ça réduit les risques d'accidents liés à la manipulation des palettes sur le haillon. Et Nicolas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet ?
Après, les accidents, est-ce qu'ils sont aussi nombreux ? Bon, ça, c'est, il faudrait avoir des chiffres. C'est vrai qu'on n'a pas eu ces chiffres.
Il n'y a pas d'enquête encore qui a été faite sur ça ?
Je parle spécifiquement des accidents sur les haillons.
Oui.
Parce que les haillons sont quand même bien faits. Ils sont antidérapants. Et suffisamment solide pour pas basculer, etc. Donc après, ce qui est plus, ce qui génère plus de stress, en fait, c'est le fait que ce soit fait dans la circulation et dans le milieu urbain dense, avec je sais pas des automobilistes autour qui peuvent mettre la pression, voilà, pressés, avec aussi le fait qu'on se gare parfois sur des places de livraison qui sont un peu étroites et donc c'est aussi le gabarit du véhicule qui est un peu en jeu.
J'avais une question justement à ce sujet sur le gabarit parce que ce camion alors peut-être que j'ai pas lu l'information, mais est-ce que c'est un 26 tonnes, donc c'est quand même encore assez conséquent, j'imagine. Est-ce que c'est pas prévu aussi dans les innovations futures peut-être de faire plus de véhicules un peu plus petits justement pour pouvoir mieux circuler dans les rues étroites? Peut-être que c'est une question, je vous vois rigoler Nicolas, est-ce que c'est une question bête?
Fabrice peut répondre à ça.
Oui, bien
pense,
sûr.
Parce que c'est votre travail, Fabrice, non?
Voilà. Alors, on le fait aujourd'hui sur un 26 tonnes. Évidemment, on le fera sur des camions un peu plus petits. Mmh. Mais il faut savoir que les 26 tonnes, par exemple, comme celui-ci, l'essieu arrière est directeur et c'est pas plus difficile de conduire un camion de 12 mètres avec un essieu directeur qu'un autre camion de 19 tonnes qui serait un petit peu plus court. Mmh. Je prends l'exemple des bus. Vous voyez des bus articulés qui circulent en centre-ville, ils y arrivent très bien.
Fabrice, ce qui est un essieu arrière directeur, c'est-à-dire il faut pas tourner un volant pour que l'essieu arrière tourne. Hein. C'est quand l'opérateur, le conducteur tourne le volant, ça fait tourner l'essieu avant forcément, mais ça fait tourner aussi l'essieu arrière, c'est ça, en sens inverse en fait. Enfin,
exactement.
Grosso modo, c'est-à-dire il tourne à l'opposé, quoi.
Mmh,
d'accord.
Pour faciliter en fait la giration, c'est-à-dire le virage, quoi.
D'accord. Donc c'est prévu sur des plus petits, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est ça que vous me dites finalement.
Bah, après, chaque transporteur a aussi son choix dans son camion. Chaque transporteur choisit ses propres camions, donc on le fera sur des plus petits, oui.
Mais aussi Renault Trucks, vous êtes assez précurseur dans ce domaine. C'est-à-dire que vous avez aussi imaginé le concept de livraison urbaine de la cyclo livraison. Oui. Jusqu'au camion justement de 26 tonnes. C'est-à-dire que vous avez en fait des véhicules qui répondent à tous les besoins de gabarit en fait. Hein, c'est ça, vous avez le trafic aussi.
Et de réactivité aussi, j'imagine.
Le cyclo, donc véhicule utilitaire.
On va du cargo bike où on peut charrier, enfin transporter jusqu'à 350 kg jusqu'à 26 tonnes que vous voyez ici. Et évidemment, les rôles qu'on a pensé et réfléchi se montent aussi bien sur un cargo bike, alors on n'en montre qu'un. Que sur les 26 tonnes, où ici on peut en charger jusqu'à 16 ou jusqu'à, et le futur jusqu'à 20. Mm-hmm. Donc on a réfléchi à l'écosystème complet pour amener en ville les marchandises.
Eh ben parfait.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est la coopération entre différents acteurs. C'est-à-dire que on va pas se le cacher, c'est un camion électrique, c'est plus cher qu'un camion gasoil, surtout avec équipé d'un tel système, hein, tout est automatisé. Donc il y a des surcoûts liés aux équipements, à la conception des équipements, etc. C'est, on va dire à peu près trois fois plus cher qu'un camion gasoil. Hein,
En termes d'investissement ou en termes de...
En termes d'investissement sur le véhicule, ouais.
Pas en termes d'utilisation au quotidien et de frais
d'entretien. Non, après,
d'entretien.
Au quotidien, par contre, effectivement, il y a
un gain, finalement. Ouais. Ouais.
Parce que l'électricité est moins chère que le gasoil. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement de départ est assumé par trois acteurs, hein, ce que vous nous avez expliqué pendant la conférence de presse. C'est-à-dire qu'il y a Renault Trucks, donc le constructeur du camion. Il y a le transporteur qui s'appelle Jackie Perrenot, qui est un gros transporteur sur le plan national.
Vous êtes en train de spoiler ma dernière question d'après Trafic.
Ah bah voilà, c'est ça. Ah bah
ouais, parce que là, il est 21h42 et dans 3 minutes, c'est l'info Trafic. Donc juste avant, on va mettre un peu de musique et après, on parlera justement de ce partenariat que vous venez d'évoquer, Nicolas.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés du camion.
Quand je dis bonne nouvelle, je veux dire par là qu'il n'y avait pas d'accident en particulier. Évidemment, on préférait qu'il n'y ait aucun chantier, je vous l'accorde, mais bon, c'est la dure vie de l'autoroute. Allez, on va repartir sur notre sujet. Je suis toujours en compagnie de mes deux invités pour poursuivre la discussion autour de cette innovation. Cette innovation qui consiste en un camion électrique automatisé pour faciliter le déchargement pour les opérateurs, les conducteurs, en milieu urbain principalement. Donc, on le disait tout à l'heure, vous aviez commencé à évoquer ce beau travail de coopération en fait entre le constructeur Renault, la marque Losange, le transporteur Jackie Perrenot et le chargeur Intermarché. Avant de parler des tests qui sont en cours, etc., est-ce qu'en effet on peut revenir sur cette coopération? Est-ce que c'est courant que des transporteurs s'associent à des constructeurs et à des chargeurs comme ça?
Donc en fait, on est dans un contexte économique un peu compliqué en ce moment, un contexte assez tendu dans le transport routier de marchandises, où les transporteurs accusent un peu les chargeurs de tirer les prix vers le bas, et ce qui réduit leurs marges. Et ils ont des marges très faibles, les transporteurs routiers, c'est-à-dire 1-2%. Enfin, c'est pas un métier où on gagne énormément d'argent. Il y en a qui vivent bien, hein, mais le prix du transport est plutôt à la baisse. Donc le contexte
ne favorise pas forcément ça.
À dire que en fait, non, il y a pas une très grande coopération. Mais il y a quand même des nouveautés. Une nouveauté, c'est la nécessaire transition énergétique et les responsabilités sociales des entreprises, les fameuses politiques RSE, qui se généralisent, hein, c'est l'Europe qui demande ça, et qui l'exige même. Et donc, ils se sont rendus compte, ces différents intervenants, qu'ils avaient nécessité de travailler ensemble. Alors du coup, ils le font. Et ça arrange tout le monde, en fait. C'est-à-dire que le camion électrique, ça coûte plus cher, mais le transporteur peut demander à son chargeur de mettre un peu plus, d'investir un peu plus, de l'aider, de contribuer à un investissement un peu global sur plusieurs années, ou de s'engager aussi sur un contrat de transport qui va être plus long pour assumer, en fait, plutôt que de dire on fait un contrat sur un an, on va faire un contrat sur 3 ans. Comme je sais que ton camion électrique, tu vas mettre 3 ans de plus à
amortir, acheter, les frais,
rien,
ouais.
Amortir, etc. Eh bien, voilà, tu sais que au moins t'auras notre transport à faire au quotidien pour ça. Mmh. Donc là, du coup, voilà, il y a des coopérations de ce type. Qui
ça, c'est un bel exemple.
Ouais, c'est intéressant. Bon, après, c'est souvent qu'on voit des pubs. Le transport à 0 euro ou payez pas le transport par exemple. Mmh. Ça c'est des images qui sont assez négatives. En fait c'est un mauvais signal plutôt qui est fait au consommateur,
ouais.
Qui est envoyé au consommateur parce que on sous-entend que
le travail vaut rien.
Oui. Le travail vaut rien.
Finalement.
Et du coup, voilà.
Pas évident de jongler avec toutes ces.
Les frais de transport, il faut bien que quelqu'un les assume à un moment. Mm-mm. Donc, il faut bien faire rentrer dans la tête des consommateurs que ce transport, il a un coût et que si on veut des camions qui polluent moins, il va falloir en assumer le prix. Donc, ça va être le chargeur, mais ça va être aussi à la fin de la chaîne, forcément, le consommateur qui va devoir assumer une partie de l'écart de prix, quoi.
Mm. Fabrice, les tests donc sont en train d'être achevés, si je ne me trompe pas, et le camion d'effectuer des tournées régulières en région parisienne dans un premier temps.
Oui, c'est ça. Alors on n'est pas achevé, on a démarré, on va expérimenter pendant 2-3 mois, et puis on va refaire le bilan avec Intermarché et Jacques Perrenon pour voir les améliorations à apporter sur cette innovation.
Et alors, est-ce que vous pourriez me dire peut-être à quoi il ressemble esthétiquement si je veux l'apercevoir moi dans les rues de Paris? Est-ce que il aura un design particulier avec marqué je roule à l'électrique?
Oui, il est très reconnaissable. Il est on voit des conteneurs sur le côté. Il est bleu, bleu blanc. On le repère de très loin. On le voit très bien, oui.
Parfait.
On le reconnaîtrait.
Il est en plein Paris ou il est il roule?
En ce moment, il tourne autour du siège social de l'Intermarché. Et puis, le dernier que je suis allé faire, c'était à Chigny-Mazarin. On est allé livrer l'Intermarché de Chigny-Mazarin, par exemple. Et après, il fait d'autres tournées. Alors, j'ai pas tous les noms des villes en tête, mais il tourne dans cette région. Voilà.
Une autre question, en termes d'autonomie, ça va, il tient la route?
Oui, on a à peu près 300 km d'autonomie. Et ce qui n'a pas été dit, mais c'est que tous les systèmes qu'on a mis à l'intérieur consomment très peu d'électricité. Mmh. Et donc, du coup, on a perdu même pas 10%
de batterie.
Ouais. Donc, c'est plutôt très bien.
Pour l'instant, c'est concluant. Est-ce que, pour terminer, Fabrice, est-ce que vous avez d'autres idées novatrices comme celle-ci dans la lignée de ce Deliver Assist, d'autres projets dont vous pourriez peut-être nous parler en avant-première?
Non, on va déjà s'attacher à
réussir ce projet,
à faire fonctionner celui-là, à l'optimiser, parce qu'il est perfectible, évidemment, c'est le premier, et donc fallait le faire, et non, on va s'attacher à le faire correctement, à faire la version 2, et qui répond à un plus grand nombre de nos clients, et d'essayer d'optimiser tout ça pour promettre le gain de productivité aussi, c'est notre objectif, c'est de gagner 30% de productivité. Comme l'a très bien dit Nicolas, les entreprises de logistique ont bien du mal à gagner leur vie, il faut qu'on les aide aussi à gagner en productivité et que tout le monde soit gagnant.
Merci
beaucoup. Oui, on s'attachera à ça.
Ben, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance dans ce projet, plein de courage. Et puis j'ai hâte de croiser ce camion dans les rues de Paris et puis après peut-être même dans d'autres villes, je l'espère.
Très bien, merci.
Portez-vous bien, le programme de prévention santé géré par Carcept Prévoyance qui vous accompagne au quotidien vous présente Les routiers sont toujours aussi sympas.
Et je suis suis ravie.
Ils sont toujours aussi sympas.
De parler sur le jingle. Je suis ravie de faire la route à vos côtés ce soir pour l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Au moins, je fais rire mon invité, donc ça, c'est une bonne chose. On a parlé tout à l'heure d'une innovation concernant un camion électrique. Si vous n'avez pas été présent pour cette première partie, vous pourrez toujours l'écouter en replay. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux camions à long nez. Mais avant cela, je voulais saluer JP qui est à l'écoute du 177 et qui fête l'anniversaire de sa fille Léa qui a eu 12 ans. Voilà 12 ans qu'elle a fait de moi un papa pour la deuxième fois. Et je veux qu'elle sache que je suis fière d'elle et que je l'aime très fort. Et ça, les messages des papas, je suis obligée de les passer parce que moi, je suis une fille à papa. Donc voilà, je comprends JP. Il en profite donc pour faire un bisou à sa fille, à sa Lily, son petit Gus Léo et à sa femme Angélique. Voilà, il vous aime fort. Merci d'être fidèle au 177. Si vous aussi vous avez envie d'envoyer un petit message, vous le faites quand vous êtes à l'arrêt, évidemment, lors de votre pause, de votre coupure. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, voter pour le sondage du jour. Et ça concerne directement cette deuxième partie d'émission. Savez-vous ce qu'est un camion à long nez? Si oui, eh bien vous pouvez voter. Est-ce que ça vous plaît ou non? Si vous ne savez pas, on va en parler tout de suite, justement, avec notre invité. Parce qu'on en parle dans le numéro de France Route du mois de novembre. Coup de projecteur sur la transformation des camions classiques en camions à long nez. Pour en parler, donc, toujours Nicolas Grumel, rédacteur en chef du magazine, qui est toujours en studio. Et puis par téléphone, celui qui a écrit l'article, Pascal Stitch. On parle de vous comme d'une véritable encyclopédie du camion. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Ponchelet. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, oui, bien sûr, bonsoir, bien sûr.
Alors déjà, pour ceux qui, comme moi, avant de préparer cette émission, ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors j'ai eu des photos dans le numéro du magazine France Route, des belles photos où on comprend très aisément, mais pour ceux qui sont sur la route et qui n'ont pas le magazine sous le nez, est-ce que Nicolas ou Pascal, comme vous voulez, est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est?
Bah, peut-être. Oui, on peut rappeler très rapidement que le monde du poids lourd s'est longtemps divisé en deux. Il y avait les partisans des cabines à capot, ce qu'on appelle les longs nez aussi, parfois de torpedo, et les tenants des cabines avancées. Alors c'est un peu sommaire, mais c'est pas faux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les cabines à capot, les longs nez, ont disparu des routes européennes, tout simplement parce que les constructeurs européens ne les fabriquent plus. Alors on peut encore en croiser, mais ce sont des véhicules un peu anciens. Ou alors des véhicules qui ont été transformés, tels que ceux qu'on présente dans le magazine France Route, qui prend par un spécialiste hollandais qui s'appelle Vlastuin. Alors maintenant, encore une fois très rapidement, pourquoi ces camions ont-ils disparu? Pour des raisons essentiellement réglementaires, c'est-à-dire qu'en Europe, la réglementation limite le gabarit hors tout des véhicules, et qu'un véhicule à capot, évidemment, est beaucoup plus long qu'un véhicule à cabine avancée, puisque le moteur est devant. Donc, ça limite la longueur utile, et c'est pas toujours un avantage, sauf pour des fret très lourds, pondéreux, où là, mon Dieu, on a plus besoin de poids que de longueur de plancher. Donc, ces véhicules ont disparu, mais il est resté une petite frange de clients.
Alors, attendez, ne spoilez pas, on va en parler juste après.
Non.
Avant cela, est-ce qu'on peut, Nicolas, oui, dites-moi.
Non, c'est juste pour préciser, Pascal, la longueur utile d'un véhicule, c'est-à-dire que ce qui se trouve à l'avant, du fait rallongé par le capot, ne va plus se trouver à l'arrière dans la remorque.
C'est-à-dire qu'on a gagné de la place
place pour les marchandises, on en gagne pour le moteur, enfin pour la cabine rallongée du moteur, mais on en perd pour les marchandises. Et ce qui est important, un camion, c'est un beau véhicule, c'est sûr, mais c'est avant
surtout
tout
la rentabilité.
C'est un véhicule qui est un outil de travail. Et donc, il faut garder de la place pour ce qu'on appelle la charge utile. C'est ça, Pascal?
Oui, tout à fait, sachant que la plupart des frettes demandent plus de volume ou de longueur de plancher qu'autre chose. Alors c'est un peu faux pour des bennes, voire des citernes, où on n'a pas besoin de saturer toute la longueur du gabarit, mais pour la plupart, pour le fret général, on a plutôt besoin effectivement de volume et de grande longueur de plancher. Et là, le fait d'avoir le moteur devant, donc un capot devant, ça limite la capacité d'emport, c'est plutôt un handicap.
Donc, il y a des avantages et des inconvénients, finalement, dans les deux types de camions, si je comprends bien.
Historiquement, l'avantage des cabines à capot, qui ont été très courante en Europe. Hein. Mmh. C'était une solution beaucoup plus simple, parce qu'on avait l'accès à la mécanique qui était pratique, hein, c'est un peu comme sur une voiture, on a le moteur devant,
on ouvre le capot,
on a une cabine où le plancher est plat, il n'y a pas de tunnel moteur, on a un embarchement qui est beaucoup plus simple, et puis ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas à basculer la cabine. Hein. Renverser un capot, ce n'est pas très compliqué comme système. Basculer une cabine avec un système hydraulique, c'est lourd, c'est coûteux. Alors maintenant, avec la montée en puissance, effectivement, des cabines avancées modernes, le phénomène s'est un peu inversé, et les véhicules à capot se sont marginalisés, ils ont conservé un emploi dans les chantiers, par exemple, hein, avec une benne, un porte-malaxeur, ou pour des marchés de grande exportation où ils avaient encore une certaine pertinence.
D'accord.
Il faut dire une chose encore, il est vrai que très longtemps en Europe, les conducteurs ont été assez attachés aux cabines à capot parce qu'ils pensaient, non sans raison d'ailleurs, qu'ils présentaient une meilleure sécurité en cas d'accident, en cas de choc frontal.
Parce que il y aurait plus de protection.
Il y aurait plus de protection par rapport à une conduite avancée, parce qu'il y a quand même deux gros longerons devant qui font un peu, qui mettent une distance en cas de choc et qui effectivement sont un peu plus sécurisants que sur une conduite avancée.
Mais j'y connais rien en mécanique, mais on est d'accord que dans les deux cas, le moteur est quand même devant. Si c'est un long nez, il est dans le capot.
Alors non, dans une cabine avancée, d'accord, le moteur est sous la cabine.
Mais donc c'est ça, donc ça peut prendre feu de la même manière finalement.
Non, mais c'est une protection en cas de choc, faut dire un choc frontal.
Ah oui, d'accord, juste ça.
On a le moteur, pas tant le moteur qui peut reculer, mais surtout les longerons à l'avant hein, qui dépassent par rapport au poste de conduite et qui apportent une certaine
protection.
Oui.
D'accord. Alors justement,
à l'inverse, il y a quand même des sacrés, la visibilité du conducteur du camion est quand même moindre, non? Pascal.
Oui, c'est le gros avantage des cabines à capot, c'est qu'elles offrent une visibilité nettement moins bonne, particulièrement sur l'avant, d'autant plus que très souvent on a du mal à distinguer les ailes. Alors, on met des petites boules de gabarit, des fois des choses comme ça. Mmh. Ça ne présente pas que des avantages, surtout dans un environnement qui est celui des routes européennes, qui sont quand même assez congestionnées, qui ont des infrastructures assez mesurées. Donc c'est le gros inconvénient des cabines à capot, c'est la visibilité. Oui.
C'est-à-dire que le petit Vespa qui est devant, là...
il me regarde en souriant parce que je suis en scooter, moi. Et il croit que j'ai un petit Vespa comme ça, tout fragile. Pas du tout. Ah Beverly, vroom, vroom, comme ça.
Par rapport au grand camion qui est très très haut.
Oui, il ne me voit pas, toi.
Il ne me voit pas. Il a un peu de mal avec le capot devant.
Ouais. Ça fait un angle mort.
Voilà, un angle mort qui est un peu difficile à
appréhender.
Est difficile à résoudre, quoi.
Messieurs, on reste ensemble. J'allais partir sur un petit coup de musique, mais là, on va être trop en retard. Donc, on va tout de suite parler de l'infotrafic avec mes chers compères dans le sud-ouest et dans le sud-est du pays. Et ce sera donc dans un instant. J'allais mettre de la musique, mais non, Mika, ce sera pour plus tard. Hop, c'est parti, on continue notre émission pour parler ce soir en compagnie de Nicolas Grumel, rédacteur en chef de France Route, et de Pascal Stitch, auteur de l'article qui parle de ces camions à long nez. On va parler justement, on continue notre discussion à ce sujet. Pascal, vous êtes toujours avec nous. On voit, vous l'avez dit, très peu de spécimens de camions à long nez sur les routes européennes. Et ça n'a pas toujours été le cas, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors peut-être qu'on peut, vous l'avez expliqué, hein, les raisons de la disparition en Europe, mais peut-être qu'on peut y revenir et surtout expliquer pourquoi est-ce que aux États-Unis, par contre, c'est vrai que c'est, en tout cas moi, dans les images des films que j'ai, souvent c'est des camions à long nez. Et pourquoi est-ce que ça demeure là-bas ?
Alors, non seulement ça demeure, mais c'est le mouvement rigoureusement inverse et symétrique de ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que tous les véhicules lourds à cabine haute avancés ont disparu aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que la réglementation américaine, au lieu de limiter le gabarit hors tout, limite la longueur des semi-remorques. Il y a une réglementation, les remorques, les semi-remorques ont des dimensions, une longueur maximale qui ne peut pas être dépassée. En revanche, cette réglementation laisse une grande latitude quant au gabarit hors tout, ce qui permet d'avoir des cabines à capot beaucoup plus longues, avec des modules couchettes, ce qu'on appelle là-bas les sleepers, qui sont également qui peuvent être de très grandes dimensions, sachant aussi que les infrastructures, les dimensions du pays fait que ces véhicules très encombrants en longueur, ils n'ont pas des ronds-points, des petites routes nationales, des choses comme ça. En Europe, c'est inenvisageable de rouler avec une semi-remorque de 53 pieds ou des choses comme ça. C'est du convoi exceptionnel. Aux États-Unis, enfin disons en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, pour des raisons de coût et de simplicité, ben, une cabine à capot, c'est beaucoup plus simple. On fait l'économie du système de basculement de la cabine. C'est moins lourd. Le confort dans la cabine est plus grand. On n'a pas on a un plancher plat. On n'a pas d'intrusion du moteur dans le poste de conduite. On a un amarchement, un accès qui est également simplifié. Moyennant quoi, les chauffeurs ont basculé massivement en faveur des conduites à capot. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que les deux sont faits à peu près en même temps, parce que, petite anecdote comme ça, le dernier camion à capot de série fabriqué en Europe était le Scania série T, et le constructeur a décidé de l'arrêter en 2005. Et le dernier camion lourd à cabine avancée américain était un Freightliner, l'Argosy, qui a été arrêté en Amérique du Nord en 2006. Alors c'est assez amusant, en Europe on bascule sur les cabines avancées et
oui, une année près,
les États-Unis,
en fait.
Voilà, quasiment au même moment, les Américains retirent leur dernier modèle de MaxiCode à cabine avancée.
Alors moi c'est vrai que je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, je suis novice dans ce secteur-là, donc je pose peut-être des questions un peu bateau, mais je me dis, comme ça ceux et celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas routiers vont sûrement en apprendre comme moi ce soir. Ces camions à long nez, ces cabines, est-ce que c'est la même chose qu'en France, c'est-à-dire que les cabines avancées, ça peut être séparé du chargement, ou est-ce que ce sont des remorques qui sont intégrées? Je ne sais pas si ma question est claire, mais...
Oui, c'est un porteur ou un semi-remorque, enfin un ensemble routier avec
voilà,
un tracteur et une remorque.
Où est-ce qu'il y a des sujets sur les deux?
Aux États-Unis, un peu comme en Europe, ce sont essentiellement, mais peut-être plus encore aux États-Unis qu'en Europe, ce sont essentiellement des ensembles articulés, c'est-à-dire un tracteur auquel on attelle une semi-remorque. La configuration porteur plus remorque qu'on trouve en Europe est très marginale en Amérique du Nord. Elle existe, mais elle est très marginale. Mais bon, le principe est le même. C'est des raisons essentiellement d'utilisation. La semi-remorque est simple. Comme ils peuvent utiliser des semi-remorques très longues, oui. L'avantage du porteur-remorqueur en Europe, c'est qu'il permet une longueur supérieure à un semi-remorque. Donc on a plus de longueur de plancher avec un camion plus remorque qu'avec un tracteur plus semi-remorque. Donc pour les transports un peu volumineux ou qui nécessitent un grand nombre de palettes, on a intérêt en Europe à utiliser effectivement la solution camion plus remorque. Aux États-Unis, comme ils ont des semis qui sont vraiment très très longues, c'est pas trop un souci. Et puis là, le principe de simplicité. Alors, on trouve des porteurs-remorqueurs en transport de voitures, par exemple, des choses comme ça, ou dans certains États. Parce qu'il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a une réglementation générale. Les véhicules peuvent, d'une certaine configuration, traverser tous les États sans problème. Mais chaque État conserve une réglementation locale très spécifique, et dans certains états, la solution porte-remorqueur peut être plus avantageuse. Oui.
Nicolas, vous voulez dire quelque chose ?
Non, c'était juste pour souligner que en Europe, du fait de la disparition des camions à capot, maintenant c'est aussi un véhicule d'apparat, Pascal, c'est-à-dire que le Vlastwin, c'est un carrossier qui fait des camions de prestige. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est largement au-delà du rationnel que peut être un outil de travail. On est dans l'irrationnel total avec des camions extravagants, quoi. On veut se faire remarquer quand on conduit un camion Vlastwin.
Oui, c'est ça. C'est un moyen de se différencier, de se singulariser. Ça peut aussi être un moyen de promotion pour une entreprise et puis, au fond, de se faire plaisir pour certains. Mmh. Parce que ce qui est apparu lorsque les derniers camions à capot, tracteurs à capot, ont été produits, un phénomène curieux s'est produit, c'est que sur le marché de l'occasion, ces véhicules-là ont pris une cote énorme. Ils ont atteint des prix très élevés, voire un peu des prix de folie. En particulier les Scania, bon, qui est une marque un peu haut de gamme, on va dire premium. Et les Scania T, même anciens, se négociaient à des prix très élevés sur le marché. Il y avait des gens qui les recherchaient, encore une fois, pour se singulariser ou pour se faire plaisir. C'est d'ailleurs ce qui a donné l'idée aux gens de Vlastwin, aux Pays-Bas, de se dire, mais après tout, pour répondre à cette petite demande, transformer un véhicule moderne, camion avancé, en modèle à capot.
Alors justement, on va reparler de tout cela, parce qu'on n'a pas encore présenté c'est pas un constructeur, vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure Nicolas, c'est plutôt un carrossier néerlandais qui utilise des camions Scania déjà existants pour les transformer en camions à long nez. On va en parler dans le prochain quart d'heure, ce sera juste après la musique de Josiane Last in Line et l'infotrafic à 22h30.
Portez-vous bien, le programme de prévention santé géré par Carcept Prévoyance qui vous accompagne au quotidien vous présente Les routiers sont toujours aussi sympas.
Avoir voté sur le site internet de la radio pour le sondage du soir, les camions à long nez, capot avant, ça vous plaît, oui ou non? Alors pour le moment, on a une domination des oui, donc a priori c'est un design qui plaît. J'avoue que moi aussi, je trouve que ça a plus d'allure. On va revenir justement sur l'intérêt de ces capots à long nez. Avant cela, est-ce que vous pouvez, Pascal, nous présenter justement ce carrossier néerlandais dont on parlait, Vlastwin, celui que vous avez mis en avant dans votre article et qui, a priori, transforme les anciens, enfin les camions existants comme la marque Scania pour devenir des camions à long nez.
C'est un carrossier qui faisait beaucoup de préparation pour des véhicules, peinture, aménagement, accessoires, du tuning en quelque sorte.
Du tuning pour camions.
Pour camions, voilà, c'est ça. Et puis qui, donc, de carrossier pur, c'est devenu un peu carrossier transformateur, puisque sans toucher à la mécanique ou le moins possible, ce qu'il propose aujourd'hui à ses clients, sans utiliser la marque Vlastwin, les véhicules qu'il réalise et vend conservent leur marque d'origine, ou Scania, c'était le premier qu'il a fait, ou maintenant Volvo. Et ce sont de toute façon des véhicules qui sont mécaniquement identiques à ceux qui sortent d'usine. Hein. Ce sont des véhicules de dernière génération.
Oui, c'est juste l'apparence qui change finalement.
Voilà, haut de gamme, haute motorisation, la différence se fait sur le style de cabine. Alors ça suppose quand même quelques aménagements, parce que c'est pas si simple non plus. Il faut quand même reculer la cabine d'un bon mètre. Donc changer un peu les commandes, beaucoup de choses comme ça, aménager les portes pour que le recouvrement soit différent. Mais l'idée, c'est de ne surtout pas toucher à la mécanique, pas toucher à l'électronique, modifier le moins possible le véhicule dans ses parties nobles, je dirais, et s'en tenir le plus possible à la carrosserie. Le capot, il a été imaginé, dessiné par le carrossier, qui le réalise lui-même. C'est un capot monopièce qui est basculable vers l'avant.
C'est toujours le même? Donc,
oui, c'est toujours le même. Alors,
c'est la couleur, les écritures, alors, et tout ça, mais sinon, c'est la même forme toujours.
Alors, c'est toujours la même forme pour chaque marque, puisque Vlastwin a commencé en 2017 avec Scania, et depuis maintenant deux ans, 2022, il a commencé à travailler aussi sur des bases Volvo.
D'accord. Alors, c'est ça qui fait la différence, parce que dans le magazine, c'est vrai que je voyais une différence quand même entre certains camions avec une apparence peut-être un peu plus symétrique, un peu plus carré, et d'autres un peu plus ronds, qui font un peu plus penser d'ailleurs aux camions US, je trouve. Et moi, je préfère ces arrondis, donc je me demandais si ça avait rapport en effet avec les marques que vous évoquez.
Non, oui, il y a une petite différence, c'est vrai. Alors maintenant, il est juste aussi qu'ils sont tributaires des contraintes techniques, c'est-à-dire ce sont des capots quand même assez massifs. L'apparence, c'est un style, un look, indiscutablement, mais c'est quand même assez massif. Parce que sous le capot, il y a beaucoup de choses à loger, hein, avec les moteurs de dernière génération, notamment les systèmes de refroidissement, tout ceci prend beaucoup de place. On ne peut pas se permettre d'avoir des capots à l'ancienne, très effilés, des choses comme ça. Mais bon, ça donne quelque chose d'assez réussi quand même. Je dois dire que c'est très bien dessiné. Voilà, on ne peut pas tout avoir.
Il faut s'adapter. Et alors du coup, ce constructeur néerlandais Vlastwin, vous l'avez dit, il propose ces transformations de camions. Nicolas, qui aujourd'hui peut s'acheter ça? Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, vous me disiez, c'est quand même assez prestigieux. On va comparer ça par exemple à une Aston Martin ou une McLaren en termes de voiture. Bon, c'est pas une Porsche, donc ça veut dire que c'est vraiment quand même réservé à une certaine clientèle.
Ah oui, il me semble que c'est de l'ordre de... Il en fabrique de l'ordre de quelques dizaines... Par an, pas plus, Pascal, même pas, quelques
alors,
unités.
Oui, ça se compte sur si les on regarde, oui, j'ai regardé où ils en étaient là, en source ouverte. Hein. Vlastwin annonce avoir fabriqué aujourd'hui 72 Scania, sachant que les premiers ont été livrés en 2017, ça en fait une dizaine par an.
Ah quand même, c'est pas grand-chose.
Et Volvo, qui est arrivé plus récemment, il en a vendu 13.
Est-ce que c'est lié par rapport au prix, pardon, je vous coupe, ou est-ce que c'est lié au temps que ça prend de transformer ces camions, ou les deux?
Pas tout, c'est le prix, le temps. Alors le prix, c'est la chose, là, pour l'instant, le carrossier ne donne pas de tarif aux sources ouvertes, et les acheteurs, généralement, restent très, très discrets sur l'investissement. Bon, oui, ça va être très lourd, hein, quand même.
Qui achète ça?
C'est-à-dire que ça doit être à peu près le prix d'un camion électrique, c'est-à-dire trois fois plus cher au moins qu'un camion gasoil de série qui sort de l'usine, quoi, à peu près.
Oui, ça peut être ça.
Oui, puis il faut se différencier des autres après, j'imagine.
En fait, il y a les travaux de peinture qui sont déjà assez conséquents, parce qu'ils sont tous, ils ont tous une peinture
particulière,
une peinture tuning.
Un design.
Hein. On voit des accessoires nombreux. Il y a l'enseigne, il y a les feux longue portée, les casquettes de pare-brise. Il y a des
les barres sur les côtés.
Des spoilers sous la calandre. Enfin, il y a énormément d'accessoires. Et puis, j'imagine que l'intérieur aussi est refait. On voit derrière aussi le Scania gris, noir, métal. Là.
Ça, c'est mon préféré. Il faut acheter le magazine France Route, voilà. Parce que sinon, vous ne pourrez pas savoir de quoi on parle. Mais je vous assure, celui en noir ou gris, là, c'est mon préféré. On voit
qu'il y a une paroi lisse derrière, une paroi de cabine qui est lisse, toute lisse. Ça, c'est une paroi rajoutée. Ça, c'est pas comme ça d'origine. Il y a les deux échappements verticaux
derrière.
Qui sont chromés, qui ne sont pas d'origine. La potence porte-flexible aussi, c'est ça là. C'est ce qui sert à raccorder
la remorque,
les câbles électriques, etc. Ça, c'est pareil, c'est pas d'origine. Donc tout ça, ça
coûte un bras. Ma question, c'était qui s'achète ça? Qui peut se permettre d'acheter ça?
Bah, des transporteurs qui ont réussi, ma bonne dame.
D'accord, hein, mais alors très bien, mais pour quel intérêt? Pour se la péter?
Ouais,
c'est l'expression datée de 1990,
voilà.
Ça, mais... voilà. c'est pour une question d'image de marque, Fabrice, Pascal, pardon, si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas, mais c'est une question d'image de marque principalement, ou il y a un côté un peu peut-être collectionneur ou pour se faire plaisir?
C'est du prestige, c'est de l'image de marque, c'est effectivement une enseigne pour une entreprise. Il faut bien voir qu'on n'a pas de flotte, même réduite, de véhicules transformés par la suite. En revanche, on a des transporteurs qui ont acheté un camion comme ça, qui est un peu le fleuron, celui qu'on met en avant, qui peut faire plaisir à un chauffeur qui est particulièrement une grande ancienneté, à qui on veut... Évidemment, le prix, il est d'autant plus élevé. D'abord, on part de base qui sont quand même des modèles haut de gamme, haute motorisation. On ne fait pas ça. Vlaswing ne travaille que sur des véhicules, c'est des Scania moteur V8 ou c'est des Volvo avec le gros 6 cylindres de 17,3. Donc on est sur des moteurs de 660, 700, 770 chevaux. On est vraiment sur du très, haut, très très haut de gamme. Et en plus, effectivement, et c'est la logique qui veut ça. On a un camion d'exception, on a une présentation d'exception et un aménagement intérieur qui va dans le même sens. Oui, c'est dingue. Alors cela étant, ça reste quand même un outil de travail. Hein. Ce sont des véhicules La plupart sont des tracteurs, mais on a vu quelques porteurs aussi, notamment il y en avait un il n'y a pas très longtemps qui était livré comme camion de dépannage. Un 4 essieux qui a été équipé en camion de dépannage, ce qui est là, pour le coup, c'est pas une mauvaise idée, parce que le gabarit n'est pas un problème. Le report de poids sur l'avant, c'est pas mal. En plus, c'est un 8-4, donc deux essieux directeurs. L'essentiel, ce sont quand même des tracteurs, mais on a quelques porteurs dans ces configurations.
C'est très juste ce que tu disais, Pascal, c'est que aussi, dans le transport routier en ce moment, on fait face, et les transporteurs font face à une pénurie de conducteurs, et on se rend compte que les camions de prestige, alors on dit justement, ils veulent se la péter et tout, mais en fait, c'est aussi pour garder les bons conducteurs. Les transporteurs, les chefs d'entreprise, ont remarqué que un des critères qui fait que le bon conducteur, celui qui conduit bien, celui qui prend soin de son matériel, il va pas aller voir chez le concurrent. Même si le concurrent lui propose un salaire un petit peu meilleur, si son patron lui offre un beau camion, un camion confortable.
C'est pour le meilleur salarié du mois.
Non, mais ils passent leur vie dans les camions.
Bien
quand
sûr.
Même. C'est-à-dire qu'ils vont dormir dedans, ils vont découcher, Il y a toutes ces
paramètres. Ça peut être un attrait, c'est ça que je veux dire. Ça peut être un levier d'attrait.
Là, on va le valoriser, le conducteur, et puis on va lui proposer un outil très confortable avec toutes les options. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais...
Ça peut pas créer de la jalousie, parce que j'imagine que les transporteurs peuvent pas non plus se payer trois camions comme ça, prestigieux.
Bah, après, la palette de préparation et de tuning est quand même assez large, donc il peut y avoir d'autres styles de véhicules, hein, c'est pas...
D'accord. Et le sondage du jour, c'était de vous demander si les camions avec long nez capot avant, ça vous plaît. Eh bien, globalement, oui, mais ça reste assez serré. Tout à l'heure, on avait plus de 60% de votes. Je soupçonne quelqu'un dans ce studio d'avoir voté non, que ça lui plaisait pas et qu'il préférait les cabines avancées. Nicolas, est-ce que c'est vrai ?
Non, c'est pas vrai, j'ai pas pu voter parce que c'était terminé le sondage.
Bon, ça va.
Il voulait tricher, il a pas le droit.
Donc, c'est assez serré, il y a près de 58% de oui, donc que ça plaît aux gens, et 42% de non. Donc globalement, j'ai l'impression que c'est assez équilibré. Alors peut-être que quand on dit ça plaît, on parle pas simplement d'esthétique, et donc peut-être que pour une praticité des camionneurs et des routiers qui nous écoutent, ils préfèrent peut-être cabines avancées.
Moi, j'aime beaucoup les camions américains à capot, je trouve ça classe, et puis ça fait
film américain,
partie,
quoi. Voilà.
Ça fait partie du folklore et tout ce qu'on a envie de connaître. Mais je sais pas, moi, en Europe,
ils ont moins de classe.
Je le sens pas, ouais, je les trouve. je les aime bien aussi. Je trouve que c'est des véhicules hors normes qui ont un côté comme ça, un peu. Ils écrasent un peu, quoi. Ils écrasent, quoi, quand on les voit.
Ça, c'est sûr.
Mais. Bon, c'est.
Pas convaincu totalement. Marielle, Hervé, est-ce que vous avez un avis ?
Oui, juste une question de goût. Moi, je les aime bien, avec le nez long.
Je pense qu'il y a un côté esthétique
qui
nous séduit davantage.
Et puis, c'est vrai que j'étais aux États-Unis, au Canada, il n'y a pas très longtemps. Et bon, j'en voyais donc, et je les trouve beaux, avec de belles couleurs.
Ouais, moi, je trouve qu'ils ont de la prestance.
Oui. Bon, c'est impressionnant quand même à côté. Hein. On se sent tout petit. Bon.
Hervé.
Les capots longs aussi.
Ah voilà, on est tous d'accord.
C'est très sympa. Oui. Et surtout, ça me rappelle bien sûr les berliers d'antan.
Ah c'est sûr.
Ah ben voilà, moi j'aimais bien les berliers d'antan, comme dans les films $100,000 au soleil avec Bébel, etc. Ou le salaire de la peur. C'était pas des berliers, mais c'était... Enfin voilà, c'était des camions. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Pascal ?
Oui, j'allais vous demander, Pascal, votre avis.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules à capot tels que ceux que propose Vastwin sont des véhicules de prestige, alors que, juste pendant très longtemps, les véhicules à capot produits en Europe étaient des véhicules comme les autres. On en voyait pratiquement autant. Beaucoup étaient des camions de chantier, donc pas du tout de prestige. Mmh. Hein, c'est un petit changement. À ce propos de camions américains, il faut peut-être dire juste quand même que le principal concurrent de Vlastwin, bon, qui ne va pas renverser le marché non plus, ça reste marginal, il y a une poignée quand même de maisons spécialisées en Europe qui importent des véhicules américains, de marque américaine, neufs ou d'occasion d'ailleurs.
Qui
les retapent pas, donc qui les mettent aux normes, qui les font homologuer en Europe et qui les vendent un peu comme... exactement comme Vlastwin, comme véhicules d'exception sont généralement des Kenworth ou des Peterbilt, quelques Volvo, mais alors américains, hein, qui sont tout à fait différents. Ce sont des Volvo conçus, produits aux États-Unis pour le style des routes américaines. Donc il y a une petite poignée comme ça. Pareil, tous les ans, il y a une dizaine ou une quinzaine de véhicules qui arrivent en Europe, dans différents pays. On en a eu en France, et qui occupent un peu la même niche de véhicules de prestige, de véhicules de plaisir, avec là le côté quand même camion US, c'est pas tout à fait le même look que ceux que propose Vlastwin.
Alors, t'as pas donné ton avis, Pascal, hein, t'es malin.
S'il a dit long nez, je crois.
Pascal ?
C'est pas pour botter en touche, mais les deux ont leur valeur, les deux ont leur sens.
C'est la Suisse, voilà.
Oui, je dirais, pour un véhicule strictement routier, je préférais une cabine avancée. Pour un camion de chantier, je serais assez cabine à capot.
D'accord, pas mal, pas mal.
Hein, bon, bah voilà, on est quand même tous à peu près d'accord.
Bon,
on ne connaîtra pas les prix de ces cabines à long nez, de ces capots avant, mais peut-être que si vous nous écoutez, que vous avez un patron sympa, vous pouvez toujours demander, c'est bientôt Noël, donc bon voilà, n'hésitez pas à mettre ça sur votre liste au Père Noël. Peut-être que vous aurez un joli camion tuné avec un long nez comme ça. Je ne sais pas.
Voilà. Bon, mais... Demandez-lui quand même pour le Noël de 2025.
Hein. Oui, le temps qu'il puisse faire quelques économies, voilà, c'est ça.
Là, il va devoir mettre de côté quand même.
Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour cette émission. Merci à mes copilotes également, bien sûr. J'étais ravie de faire la route à vos côtés. En parlant de ces deux sujets très différents, j'ai appris plein de choses.
Bah écoute, merci Yoko, c'était sympa et puis ça change un peu, hein, voilà.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h-23h sur Radio Vassy Autoroute.